Si vous n'aimez pas l'histoire, on tâchera de vous la faire aimer. Si vous l'aimez, on tâchera de ne pas vous dérouter. Les Chemins du Passé, association d'histoire basée à Saint-Symphorien-de-Laye, vous propose de partager des moments de notre histoire en essayant de la rendre vivante, même si la manière de les présenter parfois imaginée, faits et personnages sont véridiques.
Micro-histoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Maud Sénat et Xavier Maga. Un mandrin a essayé de percer à Rouen.
J'ai découvert il y a peu l'existence et l'histoire de Madame Bonnard, un personnage emblématique qui a vécu à Saint-Maurice-sur-Loire au XVIIIe siècle et qui, par ses écrits, a laissé un témoignage très détaillé sur les aspects de la vie quotidienne ainsi que sur certains événements qui ont eu lieu dans notre région, principalement sur le territoire entourant l'actuel Saint-Jean-Saint-Maurice, mais également sur Rouen et ses alentours. C'est donc en feuilletant les fameuses chroniques de Madame Bonnard que je suis tombée sur l'évocation d'un événement que l'on pourrait qualifier de fait divers de nos jours. Il s'agit du passage de Louis Mandrin et de ses compagnons à Rouen et dans ses environs. Avez-vous déjà écouté la complainte reprise par Yves Montand, la célèbre complainte de Mandrin ?
Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande, tous habillés de blanc à la mode des, vous m'entendez? Tous habillés de blanc à la mode des marchands.
Nous sommes dans les années 1750 et la révolution est en marche. Louis Mandrin est vu comme une sorte de Robin des Bois pour les uns et comme un bandit pour les autres. Il a organisé un réseau de contrebande au nez et à la barbe de la ferme générale, l'institution la plus puissante et la plus impopulaire de l'ancien régime, chargée de collecter les impôts indirects. Les fermiers aggravaient les impôts pour en retirer un bénéfice plus grand et leurs receveurs, par leur âpreté au gain, leurs exigences et leurs poursuites judiciaires, excitaient la colère du peuple contre le noble privilégié et le bourgeois. On ne pouvait parler de traite, de taille, de douane, de sel et de tabac sans deviner un malaise général et une certaine opposition. Cette résistance se concrétise alors en un homme dont la légende a perpétué le souvenir et amplifié les exploits, Mandrin. Il permettait au peuple d'acquérir à bas prix des produits coûteux comme le sel ou le tabac, des marchandises rares ou prohibées. Véritable héros aux yeux du peuple, pour les autorités, il était l'homme à abattre. En 1754, Louis Mandrin a 27 ans. Il veut se venger des fermiers généraux qu'il tient pour responsables de sa ruine et de la pendaison de son frère Pierre. C'est à lui, en tant que chef de famille, de laver ses affronts. Au début de l'année 1754, Mandrin déclare la guerre à la puissante ferme générale et la légende de Mandrin est en marche. Plusieurs régiments royaux, dont ceux de Fichy et de la Morlière furent mobilisés pour barrer la route à Mandrin, fin stratège et homme rusé qui échappa systématiquement à ses poursuivants. Il est vrai que Louis Mandrin, capitaine général des contrebandiers, se déplaçait avec une rapidité étonnante à travers le Dauphiné, la Provence, le Vivarais, le Forêt, l'Auvergne, le Lyonnais, la Bourgogne et la Franche-Comté. Voltaire disait de lui « Il a la vitesse de la lumière ». Il effectuera 6 campagnes éclairs entre 1754 et 1755. Ses apparitions sont rapides et déterminées, et ses premières campagnes sont facilitées par l'assentiment des populations. Les mandrins, comme on les surnommait, vendaient leur tabac, indienne et autres mousselines de Suisse et de Savoie à des prix défiant la concurrence des fermiers généraux. Le tabac de bonne qualité était vendu 50 sous par les contrebandiers contre 5 francs par les buralistes des fermes, ce qui les rendit véritablement populaires. Ils étaient de plus hommes rapides à la boisson et savaient faire la fête quand il le fallait, c'est-à-dire assez souvent, ce qui était très agréable pour les aubergistes, des tavernes et autres auberges qui affichaient souvent complet lorsque les contrebandiers venaient à s'y arrêter. Mais la ferme va réagir en interdisant l'achat des produits de contrebande et en punissant sévèrement les contrevenants. Mandrin changera de méthode en vendant ses marchandises au directeur des fermes, mais cette fois sous la contrainte et au prix fort. La ferme, en grand danger, mènera une véritable chasse à l'homme en payant ses propres troupes régulières et en s'alliant avec le ministre de la guerre, le comte d'Argenson. Mandrin peut dès lors montrer ses qualités de stratège et il prendra sans beaucoup de difficultés des villes comme Bourg, Le Puy et Montbrison en octobre 1754. Le 9 octobre 54, Mandrin fait une incursion à Rouen. Une avant-garde de 24 contrebandiers entre dans la ville sur les 4 heures de l'après-midi, après avoir rapidement parcouru la petite ville, vient se ranger militairement devant l'église. Le gros de la troupe arrive une heure plus tard. Elle fait une entrée bruyante. Mandrin introduisit ainsi 150 hommes dans la ville. Le reste de ses troupes demeura durant la journée dans les environs de Roanne, réparties en 4 escouades, chacune étant composée d'une 50aine d'hommes. Il resta au logis du Loup, qui se trouvait près des halles de la ville. Le lendemain, une arrière-garde de 60 hommes passa encore sous les murs de la ville. À ce moment-là, Mandrin dispose donc de 400 hommes environ. À l'approche des Mandrins, tous ceux qui, de près ou de loin, touchaient à l'administration des fermes et furent avertis à temps, coururent se cacher. On escaladait à cet effet, de tous côtés, les murs des maisons religieuses. Pour aller plus vite, Mandrin divisa à Roanne sa troupe en 3 bandes, dont l'une se rendit chez Monsieur Hué, receveur des gabelles, la seconde chez Monsieur Forest, entreposeur des tabacs, et la troisième à la recherche de Monsieur de la Roche-Jacquelin, capitaine général des fermes, et de Monsieur Corson, receveur des tailles. Mandrin demanda 21 000 livres à Monsieur Hué, receveur des gabelles, qu'il dit ne pas avoir en sa possession. Mandrin lui dit
« Qu'à cela ne tienne, on vous emmènera en otage, vous et votre fils. Cela nous vaudra 50 000 livres de rançon, faites avancer 2 chevaux. »
Cela modifia les idées de Monsieur le receveur. Du moins, demanda-t-il que ces caisses fussent ouvertes en présence d'un juge et d'un greffier.
« Rien de plus juste, nous ne sommes pas des voleurs. »
Les caisses contenaient 10 000 livres, que Mandrin fit descendre dans la salle basse, où il les répartit entre ses hommes. En échange, il laissa 18 gros ballots de tabac enveloppés de serpillères et 2 autres ballots plus petits qu'il compta au même prix. Madame Bonnard nous raconte ce qu'a fait le second groupe, constitué de 25 hommes bien armés et envoyés par Mandrin au bureau de tabac. Quelques hommes entrèrent, les autres restèrent dehors, la baïonnette au bout du fusil, en rang de l'autre côté de la rue. Le maître des lieux s'était déjà enfui, laissant ses filles pour les recevoir. Les hommes leur demandèrent 20 000 livres, mais les demoiselles présentes ne trouvèrent que 500 livres. Cela n'étant bien sûr pas suffisant, les hommes en jetèrent une à terre et prirent l'autre, la menèrent à la recette de la taille où elle put emprunter 2 400 livres à Monsieur Livron, le receveur. Nous savons qu'ensuite, les hommes de Mandrin s'en retournèrent avec la jeune fille au logis paternel, où elles se mirent à enfoncer les armoires dans lesquelles ils finirent par trouver 1295 livres, dont ils s'emparèrent. La somme ne leur suffisait toujours pas. Mademoiselle Forest se remit en route avec eux et parvint à emprunter 1206 livres à des amis de son père. En échange, les Margandiers laissèrent un reçu signé Mandrin et 400 livres de tabac. Les messieurs Roche-Jacquelin et Corson, recherchés par la troisième bande, avaient, eux, eu le temps de se sauver et de se réfugier chez les Minimes. Avant de quitter la ville, Mandrin se rendit enfin à la prison. Il se fit présenter les registres par la femme du geôlier, Dame Antoinette, son mari étant absent. Puis il exigea que les prisonniers soient traduits devant lui l'un après l'autre, afin qu'il puisse les interroger sur les différents délits dont on les accusait, et juger de les libérer ou non afin qu'ils rejoignent ses troupes. Assisté d'un sous-brigadier qui servit d'assesseur aux contrebandiers, et comprenant que la plupart des prisonniers étaient des voleurs et des assassins, Mandrin prit sa décision. Dans le préau commun, les prisonniers rassemblés attendaient avec anxiété que le chef des contrebandiers eut prononcé sa sentence. Finalement, et après sage décision, on appela à voix haute seulement 2 hommes. Antoine Servageant, dit Lebon, et Jacques Audouane, tous 2 accusés de rébellion envers la brigade de la maréchaussée de la Pacaudière. C'étaient les 2 seuls que Mandrin, en fin de compte, jugeait dignes de sa clémence. Audouane et Lebon se présentèrent et se jetèrent parmi les...
Eh oui.
Puis les Mandrins reprirent leur chemin en direction du nord. 15 jours plus tard, 200 contrebandiers au galop de leur monture, le fusil haut, retraversèrent la ville de Roanne dans la nuit du 23 au 24 octobre en direction de Charlieu. Ils n'avaient avec eux aucun cheval de charge. Le 24 en fin de journée, une arrière-garde composée de 80 hommes leur fit suite. Trahi par 2 des siens, Louis Mandrin sera capturé le 11 mai 1755 dans le château de Rochefort en Auvalaise, en Savoie. Les fermiers généraux, précédant finir avec Mandrin, accélérèrent son procès et son exécution. Il est jugé le 24 mai, puis exécuté le 26 mai à Valence. L'homme est mort, mais c'est alors le début de la légende du bandit justicier qui a lutté contre l'iniquité des taxes de l'ancien régime. Si Mandrin et sa bande, appliquant leur propre justice, ont indéniablement laissé des victimes derrière eux, ce n'est pas ce qui demeure de la légende. Dans l'imaginaire collectif, il reste aujourd'hui le brigand héroïque qui vole les riches en défiant gentiment la maréchaussée. De nombreux lieux en Rhône-Alpes et Auvergne portent encore le nom de Mandrin à la suite de son passage réel ou supposé.
Micro-histoire sur RVR, présenté aujourd'hui par Maud Sénat et Xavier Magat.